Il s'agit en fait de l'actualité à la lumière de la prophétie biblique. Deux éléments qui constituent un thème cohérent peuvent être résumés ainsi. Le retour de Jésus-Christ et l'accomplissement de la prophétie biblique à notre époque. C'est très important, en particulier pour tous ceux qui croient que les Saintes Écritures sont véritablement la parole de Dieu. L'ennemi de Dieu et de l'humanité a tenté de semer le doute sur la parole de Dieu dans l'esprit des hommes. On avance ses arguments en disant que la Bible a été traduite tant de fois, et ainsi de suite. Et même si elle avait été traduite 1000 fois, je parle plusieurs langues, on peut toujours exprimer la même chose dans une autre langue. Et nous avons en effet entre les mains un livre de Dieu, les Saintes Écritures, la parole de Dieu infaillible et éternelle. Et à propos de cette parole, notre Seigneur lui-même a dit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. Ainsi, au milieu de toutes les paroles humaines, nous avons quelque chose sur quoi nous pouvons compter, quelque chose qui est vrai, qui est juste, derrière quoi se tient Dieu lui-même. Nous sommes convaincus que tous ceux qui croient que sa parole est vraie et rejettent tout doute seront justifiés devant Dieu. Nous avons déjà entendu la pensée de suivre le Seigneur. Je voudrais lire à ce sujet un verset de l'Évangile selon Jean au chapitre 8. Je préfère lire la traduction du docteur Hermann Menge, car elle se rapproche un peu plus de l'allemand d'aujourd'hui. Évangile selon Jean, chapitre 8, au verset 12, c'est ici que notre Seigneur s'exprime. Verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, je lis les versets 10 et 11, puis les versets 16 et 17. Matthieu, chapitre 13, les versets 10 et 11, puis les versets 16 et 17. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il répondit, « C'est à vous qu'il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur est pas donné. » Maintenant le verset 16, « Mais vos yeux sont bénis, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent. Car en vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré ardemment voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et auraient voulu entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, nous trouvons les 7 lettres adressées aux 7 églises. À la fin de chaque lettre, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les choses spirituelles doivent être jugées spirituellement et ne peuvent être comprises que par la révélation du Saint-Esprit. On a fait de la parole de Dieu une excellente théologie à laquelle la philosophie s'est jointe, mais la révélation telle que les prophètes et les apôtres l'avaient reçue de Dieu par l'Esprit, c'est en grande partie perdu. Pourtant, Paul écrit aux Corinthiens, l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de la divinité. Et quelle joie de venir à cette conférence, cela doit en valoir la peine, chers amis. Il doit se passer quelque chose ici, ce soir, venant du ciel. Vous devez être touchés intérieurement et savoir que ce n'est pas seulement quelqu'un qui a donné une conférence, mais que Dieu a parlé avec moi, avec nous, par sa parole, et qu'il a révélé et rendu vivante sa parole par le Saint-Esprit. J'ai déjà mentionné tout à l'heure ces deux notions, le retour de Jésus-Christ et l'accomplissement de la prophétie biblique. Nous devons donc savoir que Dieu a un calendrier. On ne peut pas simplement dire que tout restera tel quel. Cela ne restera pas ainsi. Nous avons les promesses dans les Saintes Écritures. Je vais vous en lire quelques-unes. Jean chapitre 14, versets 2 et 3. C'est notre Seigneur qui parle ici. Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez là où je suis. Nous avons un grand nombre de promesses de la bouche du Seigneur lui-même selon lesquelles il reviendra pour prendre les siens de cette terre avant que les jugements catastrophiques ne s'abattent sur cette humanité qui a tourné le dos à Dieu et qui, pour la plupart, se trouve dans une religion pieuse, mais sans relation, sans lien direct avec Dieu. Avant que les jugements de Dieu sur lesquels nous reviendrons ne puissent frapper cette terre, le Seigneur reviendra et prendra les siens auprès de lui. Même si quelqu'un voudrait dire maintenant que près de 2000 ans se sont écoulés depuis que le Seigneur a dit cela, voyez, nous avons justement rédigé un petit traité sur le thème Vision 7000. Tel que je l'ai déjà mentionné, pour Dieu, en effet, un jour est comme nos 1000 ans et 1000 ans comme un jour. C'est ce qui est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et Dieu a créé le monde en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour de toute son œuvre et il a béni et sanctifié le 7e jour. Donc, nous sommes donc en effet proches des 6000 ans qui se sont écoulés depuis Adam jusqu'à aujourd'hui et le 7e millénaire, comme vous pouvez le lire dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, sera le règne millénaire, le règne de 1000 ans, le millénium du Christ sur terre. Il n'y a pas d'autre issue. Dieu l'a dit ainsi dans sa parole et il en sera ainsi. Je me répète, même si les hommes ne veulent pas l'admettre ou ne peuvent y croire, cela arrivera quand même. Et nous vivons effectivement aujourd'hui à la fin du temps de grâce. C'est la fin des temps que nous vivons. Nous n'avons pas la possibilité ce soir d'aborder en détail le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Mais tout y est déjà écrit, tel que cela prend forme et se réalise sous nos yeux. Même en lisant les évangiles, nous pouvons constater de quelle manière le Seigneur Jésus a décrit la fin des temps, puis a précisé en disant « Quand vous verrez tout cela arriver, relevez la tête, car votre délivrance, votre rédemption approche. » Il y aura une fin au temps de la grâce. Et il y aura un nouveau départ glorieux avec Dieu. Ce sera la paix sur la terre, non pas la paix que les hommes présentent aujourd'hui sur le plan politique et religieux, mais la paix avec Dieu. Et lorsque le Seigneur règnera en tant que prince de la paix, alors Satan sera lié et rien et plus rien de mal ne se produira sur la terre. Au sujet du retour du Seigneur, permettez-moi de lire rapidement deux ou trois passages afin que vous sachiez tous que cela figure également dans la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 9 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 9 à 11. Verset 9, « Après ces paroles, il fut élevé. Sous leurs yeux, une nuée l'enveloppa et le soustraya à leur vue. » Verset 10, « Et tandis qu'ils le regardaient fixement se lever vers le ciel, voici que deux hommes vêtus de blanc se tenaient près d'eux. » Verset 11, qui dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 25, sa venue est dépeinte et décrite comme celle d'un époux, et il nous est également dit que la porte sera ensuite fermée. Voici ce qu'on y lit au verset 6. Mais à minuit, Matthieu 25, verset 6, un cri retentit. Voici l'époux. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Quiconque possède une Bible et souhaite lire ce passage peut le faire. Il nous est rapporté ici, l'époux est venu et celles qui étaient prêtes sont entrées avec lui pour le festin des noces. Il arrivera donc à la fin du temps de grâce, à la fin du jour du salut auquel nous approchons actuellement, que le Seigneur reviendra en tant qu'époux pour amener son épouse dans la gloire céleste. Dans Apocalypse 19, il est écrit « Et son épouse s'est préparée et il lui a été accordé de se revêtir d'un fin lin d'une blancheur éclatante. Il y a plusieurs venues du Seigneur. » J'ai également rédigé une brochure très courte à ce sujet. Il y a la venue du Seigneur en tant qu'époux pour venir chercher l'épouse. Puis il y a une venue où il réglera ses comptes avec tous les ennemis et où il établira alors le royaume. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le retour du Seigneur et notre préparation à ce grand et glorieux jour. Car il est écrit, « Béni et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. » Apocalypse 20, verset 6. « J'ai dit au Seigneur, alors que j'avais à peine 18 ans et que je commençais à prêcher, « que je souhaitais prêcher de telle sorte que ceux qui entendaient la parole de Dieu sortie de ma bouche aient la possibilité d'être avec Dieu dans la gloire. Je ne suis pas ici pour dire ce que les gens veulent entendre, ni pour blesser qui que ce soit, mais je suis ici au nom du Seigneur pour montrer le chemin étroit et clair qui mène à la vie et pour dire clairement que le chemin large sur lequel nous nous trouvons tous par nature mène à la perdition et nombreux sont ceux qui y marchent. L'homme doit faire son choix pour le Christ et donc pour lui-même et pour la vie éternelle, car ce n'est qu'en Christ que Dieu s'est révélé personnellement à l'humanité. Et ce n'est qu'en Christ que nous pouvons avoir une rencontre personnelle avec Dieu. C'est ce qui est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, au verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et le message qui doit être proclamé en premier lieu est « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Je veux aussi vous dire la vérité à ce sujet. Frère Pézal a mentionné qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi aux autres, mais qui ne veulent pas qu'on leur fasse la même chose. N'est-ce pas, vous voulez connaître la vérité? C'est tout simplement nécessaire. Il faut dire que tout être humain né dans ce monde est séparé de Dieu. Il n'existe aucune action sur terre qui puisse relier l'homme à Dieu. Seule la foi en Jésus-Christ, en l'œuvre de rédemption accomplie sur la croix à Golgotha. C'est-à-dire ce que Dieu a fait pour notre salut, c'est en cela que nous devons croire pour être sauvés. Et c'est pourquoi les Saintes Écritures disent aussi « Crois au Seigneur Jésus-Christ ». Non pas en une religion, en une communauté religieuse, non pas en une institution, en un système, mais c'est véritablement le Seigneur Jésus que nous devons garder à l'esprit comme objet de notre foi. C'est seulement ainsi que nous pouvons être sauvés. Il n'y a aucun moyen d'enseigner aux hommes à entrer dans le royaume de Dieu. Cela n'existe pas. Nous devons y naître. C'est pourquoi Jésus dit dans l'évangile selon Jean, au chapitre 3, « À moins que quelqu'un ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean, chapitre 3, au verset 3, il ajoute, « Ce qui est né de la chair est chair, au verset 6 plutôt, et la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. » Donc, nous devons donc naître de l'Esprit de Dieu. C'est seulement ainsi que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu et acquérir alors une compréhension spirituelle de ce dont il s'agit dans le royaume de Dieu. Revenons donc à notre sujet, le retour de Jésus-Christ. Vous vous demandez peut-être comment se fait-il que nous affirmions aujourd'hui que le moment pourrait être venu et non pas plus tôt. J'ai essayé de le suggérer. Dieu a un temps déterminé pour tout. Il a un calendrier. Il y a eu des jours particuliers dans l'histoire et dans l'histoire du salut. Il y a eu des événements particuliers et à des moments précis où Dieu est intervenu dans l'histoire. Nous avons déjà évoqué comment est-ce que Dieu a classé tout, car il y a eu près de 2000 ans entre Adam et Abraham, puis à nouveau environ 2000 ans entre Abraham et le Christ, et maintenant nous avons à nouveau une période de près de 2000 ans, ce qui fera bientôt un total de 6000 ans. Et quelque chose va se passer. Je vais vous lire aujourd'hui encore quelques passages bibliques dont vous pourrez vous aussi clairement déduire que nous vivons actuellement dans les derniers temps, que la prophétie biblique s'accomplit sous nos yeux, que le retour du Seigneur est imminent. Et le jour du salut touche à sa fin, puis le jour du Seigneur qui brûlera comme une fournaise. S'abattra sur l'humanité impie qui n'a pas accepté le salut en Christ. Je voudrais lire dans Luc, ou peut-être d'abord dans Matthieu 24, puis dans Luc 21. Pour respecter l'ordre, Matthieu 24, ici le Seigneur parle des versets 4 à 8, de guerre et de cris de guerre, de famine, de temps difficiles qui viendraient sur qui viendraient vers la fin. Au verset 7, il est dit, Matthieu 24, car une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre, et des tremblements de terre se produiront ici et là, et ainsi de suite. Et puis le Seigneur dit au verset 8, Matthieu 24, verset 8, mais tout cela n'est que le commencement des douleurs, pas la fin, l'introduction, exactement. Ne m'en voulez pas, mais lorsqu'une femme va devenir mère, les contractions commencent. Elle s'intensifie et on sait, ça y est, c'est le moment. Ici, le Seigneur dit, tout cela n'est que le commencement des douleurs. Mais quand les douleurs commencent, on sait que quelque chose va bientôt naître. Donc, tremblement de terre, famine, temps de détresse, toutes sortes de catastrophes s'abattent sur l'humanité. Sur un continent, c'est la famine. Sur un autre, la guerre. Sur un troisième, un tremblement de terre. Tout est bien réparti sur toute la terre. Partout, on peut dire ce que le Seigneur a dit s'accomplit sous nos yeux. Ce qu'il importe de comprendre ici, c'est que cela ne se rapporte pas à la fin immédiate, mais à l'introduction menant à la fin. Car il a dit, tout cela n'est que le commencement des douleurs. Et puis, quand ce moment sera venu, tout se calmera. Et écoutez avec quelle précision l'apôtre Paul, il y a près de 2000 ans, a décrit une situation qui correspond à notre époque. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1. Quant au temps et à l'heure, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en fasse la leçon par écrit. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Voici maintenant la clé pour reconnaître les temps. Quand ils diront paix et sûreté et sécurité, paix et sécurité. Alors la ruine les surprendra soudainement comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte et ils n'échapperont certainement pas. Le Seigneur parle de guerre et de cris de guerre, de catastrophes, de toutes sortes, d'un chaos total. Paul complète, Paul contemple, lui, la fin des temps. Et il ne parle plus de guerre et de cris de guerre, mais de paix et de sécurité. Je n'ai pas besoin de vous mettre en avant ici, mais par la grâce de Dieu, il m'a été donné de comprendre la parole par la révélation de l'Esprit. Et j'en suis reconnaissant à Dieu, ainsi que de pouvoir comparer l'évolution actuelle avec les saintes Écritures. Je ne suis pas un homme politique, j'aurais bien aimé le devenir. Si je n'avais pas prêché, je le serais certainement devenu. Mais voici de quoi il s'agit maintenant. Il nous est dit, au moment où la paix et la sécurité règnent, la ruine les surprendra. soudainement comme les douleurs d'une femme enceinte et elle, et ils n'échapperont sûrement pas, certainement pas. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, nous avons, oui, vous êtes tous encore jeunes, mais ma génération, nous avons encore vécu ce que signifie la guerre. J'ai moi-même vu les morts, pas seulement des hommes, des chevaux et des vaches. J'ai vu beaucoup de choses mortes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, juste avant Königsberg, j'ai marché jusqu'à Magdebourg pendant toute la retraite. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses et les statistiques indiquaient qu'environ 55 millions de personnes ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était terrible, c'était vraiment terrible. Mais on nous dit maintenant que toutes ces guerres et tout le reste ne sont pas encore la fin. Tout à la fin, la paix et la sécurité devraient régner, régner. Et tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à présent savent que lorsque Mr. Gorbatchev est arrivé au pouvoir en 1986, ou plutôt en 85, j'ai immédiatement dit, c'est l'homme de l'heure. Dieu s'est servi de lui pour que toute l'Europe de l'Est soit aujourd'hui libre. Sans lui, rien ne se serait passé, pas même dans notre pays. C'est lui que Dieu a utilisé pour poser les jalons, mettre fin à la guerre froide, proposer une conférence sur le désarmement après l'autre, et face à la guerre des étoiles et tout ce qui s'y rapportait, il a tenu bon et a mené son projet à bien. Il est allé si loin qu'on ne pouvait s'empêcher de secouer la tête. Et voilà, cela a porté ses fruits. Je l'écris d'ailleurs très clairement dans la deuxième édition de ce traité. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Empire britannique s'est effondré. 49 États faisaient partie de l'ensemble de la Fédération sous la couronne anglaise. Et maintenant, l'Empire russe s'effondre. Et qu'est-ce qui émerge? L'ancien empire romain se forme maintenant sous nos yeux. Et je pourrais vous renvoyer à la prophétie biblique du prophète Daniel et de l'Apocalypse pour vous montrer que la dernière puissance ici en Europe centrale, sous domination romaine, sera la dernière puissance mondiale. Elle ne sera pas seulement une puissance européenne, mais deviendra une puissance mondiale, la première puissance mondiale. Mais je ne voulais pas du tout aborder la partie politique. Il suffit de l'effleurer en passant. Mais s'il vous plaît, qui a orchestré tout cela? Les ennemis historiques sont devenus des amis. L'Est et l'Ouest n'existent plus. Les frontières sont tombées. Le mur a été démoli, et ainsi de suite. Nous qui avons vécu cela en direct, nous n'oublierons pas non plus le 9 novembre de l'année dernière, lorsque la porte de Brandebourg a été ouverte. Pourquoi toutes ces choses se produisent-elles? Telle est la première question. Pourquoi pas il y a 30 ans? Pourquoi maintenant? Parce que le temps est venu où cette prophétie doit s'accomplir. Paix et sécurité. À tout prix, on ne peut pas poursuivre une guerre froide et ensuite voir s'accomplir la prophétie selon laquelle paix et sécurité doivent désormais régner. Tout devait donc se passer ainsi pour que les saintes écritures puissent s'accomplir sous nos yeux. Paul a écrit ici que nous n'avons pas besoin de connaître le temps ni l'heure. Ce n'est d'ailleurs pas du tout nécessaire. Mais voici ce que le Seigneur nous a dit, et je voudrais maintenant lire cela dans Luc 21. Si nous voyons tout cela, nous reconnaîtrons alors que le temps est proche. Et plus précisément, Luc 21, verset 29 à 32. Luc 21, verset 29. Il leur dit alors une autre parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Verset 30. dès qu'il bourgeonne, vous savez en le voyant de vous-même que l'été est proche. Verset 31. De même, quand vous verrez tout cela arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Verset 32. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Comme le savent tous les lecteurs de la Bible, la parabole du figuier fait référence au peuple d'Israël. Déjà dans l'Ancien Testament, chez le prophète Osée, au chapitre 9, verset 10, le peuple d'Israël est comparé à un figuier. Ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui s'est rebellé et est devenu indépendant. Toute l'Asie, toute l'Afrique s'est libérée de la domination coloniale et a obtenu son indépendance. Je connais par exemple l'Afrique d'un bout à l'autre, du Sénégal à Dar es Salaam. Je connais ces pays lorsqu'ils étaient encore sous le joug des puissances coloniales et je les connais après leur indépendance. Voyez-vous, il fallait que cela arrive, que tout se soit rebellé pour retrouver leur autonomie, leur neutralité, et en particulier le peuple d'Israël, qui depuis l'époque de Nebuchadnezzar a erré partout et qui depuis l'an 70, l'an 70 après Jésus-Christ, a été dispersé une dernière fois et définitivement dans le monde entier. Et maintenant, après une si longue période, ils sont revenus de plus de 100 pays dans le pays promis, dans la terre promise. Je ne voudrais pas non plus que cela soit considéré comme une ingérence politique, mais cela me fait en effet de la peine quand on parle là de territoire occupé. Quiconque relit dans Moïse et Josué les frontières que Dieu a fixées pour le peuple d'Israël constatera qu'Israël doit encore recevoir une grande partie du territoire situé à l'est du Jourdain, où s'étaient installées les deux tribus édémies. C'est une question politique et une mauvaise question politique que de parler là-bas de territoire occupé. De territoire occupé. Personne ne dit que la Prusse orientale est occupée ni la Prusse occidentale. La Poméranie, la Silésie, personne n'en parle. Et d'autres régions encore partout. Mais là-bas, en Israël, et cela peut être dit assez clairement, tout est déjà en route vers le grand conflit qui aura lieu au nord de Jérusalem. J'espère que cela prendra encore un peu de temps, au moins jusqu'à ce que nous ayons porté la proclamation de l'Évangile dans le monde entier, que ce soit des mois ou des années. Mais dès le premier jour où Saddam Hussein a occupé le Koweït, j'ai dit, il ne s'agit pas du tout du Koweït. Il s'agit uniquement d'Israël, et plus précisément contre Israël, pour pouvoir ensuite dire, eux aussi doivent quitter les territoires occupés. Ils doivent se retirer. Comme je dois me retirer, eux aussi doivent se retirer. Et le monde entier se dressera contre Israël à un tel point qu'il ne sera plus possible de l'arrêter. Nous avions lu quelques articles de journaux. J'en avais d'ailleurs rapporté un qui parlait de Saddam Hussein, ou plutôt du rêve qu'il avait fait dans lequel Mahomet lui serait apparu, et celui-ci lui aurait dit que les missiles étaient mal orientés, qu'ils ne visaient pas la bonne cible. Et nous savons tous qui est la bonne cible à leurs yeux. Tant qu'ils visent l'Arabie Saoudite, ce n'est pas la bonne cible. Si elle visait Israël, alors ce serait la bonne cible. Mais voyez, rien ne peut arriver avant l'heure. Il faut que le moment venu arrive pour tout, et ce n'est qu'alors que cela se produira. Et cela se passera effectivement comme il est écrit ici dans la parole de Dieu. Dans chapitre 14 de Zacharie, il est dit ici au verset 12, Zacharie 14, verset 12, « Mais voici le châtiment dont le Seigneur frappera toutes les nations qui marcheront contre Jérusalem. Leur chair pourrira alors qu'ils seront encore debout. Leurs yeux pourriront dans leurs orbites et leur langue se décomposera dans leur bouche. » Dans leur bouche. C'est cela, c'est déjà écrit dans la Bible. Et que dit-on ici? Si quelqu'un répand son gaz toxique là-bas, Dieu fera venir le vent et fera tomber les ennemis dans la fosse qu'ils ont creusée pour les autres. Ce que les ennemis d'Israël, le peuple élu de Dieu, veulent faire subir à ce peuple, leur sera fait. Et vous avez vous-même entendu, peut-être aussi lu en partie à quel point cela est décrit avec précision. Alors qu'ils sont encore debout, leur langue pourrira et leurs yeux tomberont de leur corps. Alors qu'ils sont encore debout, c'est donc ce qui arrivera, ce que l'on prépare déjà pour en finir avec eux. Je lis également Zacharie 12, verset 3. « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre d'achoppement pour toutes les nations. Tous ceux qui voudront la soulever s'y blessent inévitablement lorsque toutes les nations de la terre se rassembleront contre la ville. » C'est ainsi, Dieu l'a prédit dans sa parole. C'est le peuple élu. Bien sûr, ils ont désobéi, nous aussi, et ils ont dû beaucoup souffrir. Cela nous fait très mal, nous en sommes désolés. Mais Dieu fait tourner tout au bien. Dans le cinquième sceau de l'Apocalypse, nous lisons en effet que ceux dont le sang a été versé sur la terre ont crié vengeance et on leur a donné une robe blanche et il leur a été dit de patienter jusqu'à ce que les autres subissent la mort comme eux. Il est donc vrai que l'histoire du peuple de Dieu sur cette terre est une histoire de souffrance. Et les Saintes Écritures le disent, parlant du sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a été assassiné devant l'autel des holocaustes. Tout ce sang a coulé dès l'époque de l'Ancien Testament. Satan se venge du peuple de Dieu ici sur cette terre. Puis Jean a été décapité, le Christ a été crucifié et nombreux des apôtres ainsi que d'autres ont ensuite dû subir la mort en martyr. Et quand on se penche ainsi sur l'histoire des communautés religieuses, on constate qu'il y a eu les croisades, les guerres de religion, l'inquisition espagnole, les persécutions et le sang des croyants a coulé. Il ne m'en voulait pas, mais ce sang a coulé en grande partie à cause de la religion organisée dans l'Empire romain. Et la communauté religieuse romaine avait le pouvoir absolu qui n'était pas avec elle, était contre elle, et tout ce qui était contre elle ne pouvait tout simplement pas être toléré. Des millions de personnes ont ainsi été envoyés de cette vie vers l'au-delà par cette institution mondiale. De quel droit? Que Dieu lui-même y réponde le jour où il jugera avec justice. Mais il se peut aussi que, en tant que croyants bibliques, nous devions encore traverser une période de persécution peu avant le retour du Seigneur, car cela ressort très clairement des descriptions contenues dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Mais le Seigneur a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez ceux qui peuvent tuer l'âme. Encore quelques brèves réflexions concernant la fin des temps. Dans Luc chapitre 17, le Seigneur a parlé des derniers jours et les a comparés à l'époque de Sodome et Gomorre, à l'époque de Noé, etc. Pour nous faire savoir ce qu'il en sera réellement à la fin. Les gens ne se laissent plus corriger par l'Esprit de Dieu. Ils suivent leur propre chemin, mais conservent en apparence les formes de la religion, de sorte qu'on dirait encore qu'ils sont chrétiens. Si vous parlez aujourd'hui du Christ avec des gens qui sont encore chrétiens en apparence, on se moquera de vous. Prenez la Bible et parlez de la parole de Dieu avec vos voisins, dit chrétien. À ce moment-là, tout est fini. La forme extérieure est encore conservée. On va encore aux offices religieux. Cela fait partie des bonnes manières. C'est devenu une tradition. Mais où est le cœur? Où est Dieu dans tout cela? La grande question est de savoir si les gens ont trouvé une connexion, une relation, un lien personnel avec Dieu. Ici, on nous montre en toute sincérité que lors de la venue du Seigneur, il en sera comme au jour de Sodome et au jour de Noé et ainsi de suite. Vous pouvez le lire vous-même dans Luc 17, du verset 26. Et comme il en était au jour de Noé, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Verset 27. On mangeait et buvait, on se mariait et on était donné en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et fit périr tous les hommes. Verset 28. De même que ce qui s'est passé au jour de Lot, on mangeait et on buvait, on achetait et on vendait, on plantait et on construisait. Verset 29. Mais le jour où Lot quitta Sodome, il pleuva du ciel du feu et du soufre et tous furent détruits. Écoutez maintenant ce qui est écrit au verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Et maintenant, cela continue encore et encore. Et au verset 34, nous lisons, je vous le dis, cette nuit-là, deux seront couchés sur un même lit. L'un sera pris, l'autre laissé. Verset 35, deux moudrons à la même meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Les disciples lui répondirent en lui demandant, Seigneur, Où donc? Mais il leur répondit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. C'est simplement ainsi, nous devons désormais nous y attendre. Ce n'est pas agréable de devoir le dire, mais on préférerait bien donner aux hommes un espoir sur cette terre, un espoir glorieux et joyeux. Il y a un avenir glorieux pour chacun de nous, mais pas sans Dieu. L'avenir, cet avenir glorieux pour tous les temps et l'éternité existe, mais uniquement en union avec Dieu. Ce n'est que lorsque nous acceptons la grâce, le salut, le pardon et tout ce que Dieu nous a préparé en Christ que nous renaissons, que nous naissons de nouveau à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, que les enfants des hommes deviennent ainsi enfants de Dieu, des êtres humains qui ont une relation personnelle et une communion avec Dieu, qui peuvent témoigner d'un jour et d'une heure où ils ont vécu une véritable conversion et un retour vers Dieu, une expérience consciente avec Dieu. Et ont ainsi été né dans le royaume de Dieu. Car, voyez, voici ce que dit les Écritures. Deux seront sur un lit, deux à un moulin, deux dans les champs. Toujours l'un sera pris, l'autre restera. Qu'est-ce que cela a à nous dire? Que l'un est un enfant de Dieu, une âme qui attendait le retour du Seigneur, qui s'est laissé préparer, qui a peut-être même prié « Oh, viens Seigneur Jésus ». Et l'autre est quelqu'un qui est passé à côté de la grâce et du salut. Car Dieu ne prendra auprès de lui que les siens. Il ne veut pas de révolte au ciel. Celui qui ne veut pas être là-bas n'a pas besoin d'y être. Chacun sera là où il veut être. Que vous puissiez y croire ou non, mesdames et messieurs, j'ai déjà entendu des gens dire, je préfère... pelleter du charbon en enfer. Je ne veux pas du tout aller là-haut. Des gens m'ont déjà dit cela. Autrefois, j'ai beaucoup prêché sur des places publiques dans toute la République fédérale d'un bout à l'autre, y compris à Stuttgart sur le Cannstatt et Vasne et ainsi de suite. Et il y avait toujours des gens qui se moquaient et qui ne voulaient rien savoir de la grâce de Dieu ni du salut en Christ. Et puis cela fait vraiment mal. Quand on sait, il leur arrivera la même chose qu'aux riches. Le riche n'a ouvert les yeux que lorsqu'il était trop tard. À ce moment-là, ouvrir les yeux ne sert plus à rien. Pas même un. Ah Seigneur, envoie quelqu'un pour avertir mes frères. Luc 16, verset 27-28, c'est alors trop tard. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je souhaiterais que le monde entier comprenne quelle offre de grâce Dieu a faite à l'humanité. Chacun peut être sauvé. Personne n'a besoin d'être perdu. Mais même le plus grand des cadeaux doit être accepté. La foi vient de la prédication. Et c'est par cette foi en ce que dit la parole de Dieu que nous sommes sauvés. Non pas par n'importe quelle foi, mais par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, comme notre Sauveur personnel, qui a souffert la mort sur la croix. À Golgotha, spécialement pour toi et pour moi, et qui a porté le châtiment qui nous était destiné, selon Ésaïe 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Encore très brièvement et très rapidement, quelques passages que vous devez absolument connaître, sinon cela ne serait tout simplement pas complet. Et ensuite, nous arriverons tout de suite à la conclusion, à savoir ce qui concerne le jour du salut et le jour de la grâce, puis encore le jour du Seigneur qui va alors venir. Je voudrais lire 2 Corinthiens 6, verset 2, puis 2 Pierre 3, verset 2. Continue. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 2 et 3. D'abord, car il est écrit, au moment favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici, c'est maintenant le moment favorable. Voici, c'est maintenant le jour du salut. Passons ensuite directement à 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Ici, l'apôtre explique au verset 10, 2 Pierre 3, verset 10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments se dissoudront dans la chaleur des flammes, et la terre, avec toutes les œuvres qui s'y trouvent, sera consumée par le feu. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. Et il en sera ainsi. Ce sera alors le jour du Seigneur, le jour de la vengeance, le jour du règlement de compte, le jour du jugement sur l'humanité impie qui a tourné le dos au Seigneur. Ainsi, au moment où le jour du salut, ce temps de grâce prendra fin, le jugement de Dieu s'abattra sur l'humanité. Et le jour du Seigneur, je voudrais aussi vous le lire dans l'Ancien Testament, plus précisément chez le prophète Malachi au chapitre Malachi chapitre 4, verset 1. Malachi 4, verset 1. Sachez en effet que le jour vient, brûlant comme un four, où tous les orgueilleux et tous ceux qui vivent sans loi seront comme du chaume, et où le jour qui vient les consumera. Dit le Seigneur des armées, en sorte qu'il ne restera ni racine ni rameau. Ensuite, au verset 5, Malachi 4, verset 5, sachez bien, je vous envoie Élie le prophète, avant que le jour du Seigneur n'arrive, ce jour grand et redoutable. Chers amis, il faut le dire sans détour et cela devrait nous transpercer jusqu'au plus profond de notre être. Nous vivons à la fin des temps. Le jour de la grâce, le jour du salut touche à sa fin. Nous avons lu ensemble dans Matthieu 25, à minuit, un cri retentit. Le jour suit son cours, l'aube se lève, c'est midi, le soir tombe, puis la nuit s'installe. Nous avons maintenant la possibilité de voir la lumière qui brille au temps du soir, à minuit, d'un point de vue global, en ce qui concerne toute la journée du salut, afin d'être éclairé et de connaître le chemin que Dieu parcourt avec son Église, avec les siens, ainsi que les promesses que Dieu nous a faites, afin que nous les connaissions et que nous recevions une orientation spirituelle. Je l'ai dit tout à l'heure et cela ne doit pas être mis en avant, mais j'ai vraiment eu le privilège unique de proclamer la parole du Seigneur presque partout dans le monde et je m'y connais un peu dans le domaine religieux. Nous avons maintenant plus de 300 dénominations dites chrétiennes réunies au sein du Conseil œcuménique des communautés religieuses. Elles interprètent toute la Bible comme elles le jugent bon, mais il n'y a qu'une seule Bible, un seul chemin, une seule vérité, une seule vie éternelle, un seul Dieu, une seule béatitude. Dieu n'est pas responsable de toutes ces orientations. Jésus a dit dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si nous appartenons à une communauté religieuse ou à une congrégation libre. Aujourd'hui, la question est de savoir si nous sommes un membre du corps de Jésus-Christ, si nous avons vraiment été intégrés dans l'Église du Dieu vivant, nés de l'Esprit Saint et ainsi unis à cette unité divine. Joint à cette unité divine, le Christ est en effet la tête de l'Église et nous sommes et nous formons tous les membres de son corps. Encore une fois, il ne suffit pas d'être membre d'une communauté religieuse ou d'une communauté religieuse libre. Il faut avoir pris conscience d'appartenir à Jésus-Christ. Il faut être entré à la suite du Seigneur. Il faut avoir commencé à le suivre réellement. Jésus a dit, prends ta croix et suis-moi. Et il a dit, celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous devons suivre le bon berger. Je ne juge personne s'il pense que tout va bien. Les catholiques ont de bonnes intentions, les protestants, les orthodoxes grecs, orthodoxes russes et la communauté religieuse copte. Qui qu'ils soient, il y en a, comme je l'ai dit, plus de 300. Ils sont tous sincères, ils sont tous honnêtes, ils veulent tous être sauvés. Et j'ai effectivement prêché un dimanche matin à Windhoek, en Afrique du Sud, dans une communauté religieuse catholique romaine. C'est vrai. Et je tiens à ce qu'ils le sachent clairement, même si je suis si opposé au système parce qu'il laisse les gens dans l'obscurité. Et c'est pourquoi je suis contre toute religion organisée où Jésus-Christ n'est pas mis à l'honneur et où la proclamation de l'évangile n'est pas placée sur le chandelier de manière tout à fait libre et ouverte. Mais je tiens justement à souligner, encore une fois, peu importe à quelle communauté quelqu'un puisse appartenir, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Nous devons être devenus la propriété du Seigneur. Nous devons avoir vécu un jour dans notre vie où nous avons fait l'expérience de notre conversion personnelle à Jésus-Christ. Emprunter ainsi le chemin étroit et franchir la porte étroite pour parvenir ensuite à la gloire. C'est tout simplement nécessaire. Imaginez, s'il vous plaît, que je vous dise autre chose ce soir et que je doive subir lors du jugement dernier le pire reproche qui soit, celui de ne pas vous avoir montré le chemin vers le Seigneur ce soir. Cela fait donc partie du sujet. Résumons maintenant calmement. Il s'agit de deux thèmes principaux. Le retour de Jésus-Christ et l'accomplissement des prophéties bibliques de nos jours. Combien de passages bibliques pourraient être lus qui parlent de la fin des temps? Chez le prophète Daniel, chez le prophète Ézéchiel, chez tous les prophètes de l'Ancien Testament, et puis bien sûr aussi dans les descriptions des apôtres, dans le Nouveau Testament, et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, en particulier dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Et il y a là des mystères qui ne peuvent tout simplement pas être compris par la pensée humaine. Combien d'entre vous, c'est peut-être une question trop personnelle, mais j'aimerais tout de même le savoir, combien d'entre vous ont déjà lu la Bible? Ceux qui ont déjà lu la Bible une fois, oui, très bien, merci beaucoup, c'est possible. Mais l'Apocalypse décrit des images. L'Apocalypse décrit des images. On y voit une bête à sept têtes, 10 cornes et toutes sortes d'images. Si l'on n'a aucune idée de ce que signifient ces symboles à la lumière des prophéties de l'Ancien Testament, bon sang, alors on ne peut absolument rien faire de ces images. Et c'est pourquoi beaucoup n'ont pas voulu lire l'Apocalypse jusqu'au bout, car ils ne parvenaient tout simplement pas à s'y retrouver avec le sujet et les symboles qui y sont décrits et que l'on y trouve. Non, pas à cause de nous, mais parce que le temps est venu et que ces choses prennent forme. C'est pourquoi en ce temps de l'accomplissement de toutes ces choses, Dieu nous a donné par la révélation du Saint-Esprit sur la base de l'Ancien et du Nouveau Testament la possibilité de pénétrer dans ce conseil divin de salut et d'avoir une orientation directe, certaine, donnée par Dieu. Et la prophétie se réalise en ce temps, mais on ne la trouve pas dans de quelconque séminaire ou des commentaires, où des commentaires sont lus et encore commentés par des gens qui ont écrit dans le passé. Aujourd'hui, il faut des hommes de Dieu qui ont été véritablement appelés, qui ne se contentent pas d'exercer ce ministère comme une confession, comme une profession plutôt, comme on peut peut-être embrasser la carrière d'avocat, d'enseignant ou d'autres professions, plus devenir prêtre ou pasteur comme métier. Cela ne suffit pas pour proclamer la parole de Dieu. Il faut pour cela un appel divin. Et avec cet appel divin, avec ce mandat divin, vient naturellement la responsabilité, mais vient aussi l'illumination divine, la lumière divine. Viennent la perspicacité, la vue d'ensemble et la vision d'ensemble par la grâce. Et je me sens obligé de le dire pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas la chair et le sang qui révèlent le dessein de Dieu, mais le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. Et la même révélation que celle des prophètes et des apôtres, par le même Saint-Esprit, nous avons aujourd'hui la même révélation par la même parole. Chez Dieu, tout reste en effet tel qu'auparavant, comme avant. Comme je viens de le dire, les hommes ne peuvent pas enseigner ces choses. Il est écrit, ce n'est pas un frère qui enseignera à l'autre, mais ils seront tous enseignés par Dieu, par la même parole, le même Saint-Esprit, au pied de Jésus, notre Seigneur. Et l'Esprit de Dieu conduit dans toute la vérité. Pour revenir très brièvement sur ce que notre Seigneur a dit de tous ces événements de la fin des temps, tremblement de terre, famine, disette, guerre, cris de guerre, temps cher, etc. Et puis, tout à la fin, ces deux expressions qui font la une depuis quelques années, paix et sécurité. Le désarmement à tout prix. Les épées seront transformées en socles de charrues. Les frontières sont abolies, les blocs militaires n'ont plus aucune valeur. Chacun peut retourner d'où il vient. Mais de tout cela naît maintenant la grande Europe unie, comme Charles de Gaulle l'avait déjà clairement dit en 1957 lors de la signature des traités de Rome. Une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Tous les autres ont utilisé le même vocabulaire ces dernières semaines, ces deux ou trois dernières années. Et il a été dit, une Europe unifiée avec de nombreuses places où tout le monde a sa place. Mais ce que ces messieurs, en tant que politiciens, ignorent et ce que nous, informés par Dieu, savons. Je vous prie de ne pas me compter ou de ne pas me juger trop sévèrement. Je ne dis pas cela de mon propre chef. Je ne l'aurais pas su non plus. Mais en tant que croyant biblique, nous sommes mieux informés que tous les politiciens de ce monde, car nous accompagnons le développement qui se déroule actuellement avec la parole prophétique. Pas à pas, nous voyons comment tout prend forme et comment les choses se passent exactement comme cela a été prédit dans la prophétie biblique. Et c'est pourquoi je me sens obligé de souligner que c'est précisément cet aspect prophétique qui est si important aujourd'hui. Je pourrais venir vous parler de grandes choses. J'ai animé pendant 10 ans la méditation sur Radio Luxembourg tous les dimanches matins de 1968 à 1978. De 1968 à 1978. J'ai eu le grand privilège de m'adresser à des milliers de personnes à la télévision. Je pourrais vous raconter beaucoup de choses, notamment lorsque j'étais en Union soviétique il y a 2 ans, où l'on m'a invité à la télévision ainsi qu'à Pékin et dans la moitié du monde. Je pourrais vous raconter beaucoup de choses et alors vous diriez, oh, cet homme a vraiment vécu beaucoup de choses et qu'aurais-je ainsi accompli? Absolument rien. Peut-être auriez-vous été impressionné. Cela ne vous sert à rien. Il ne s'agit pas ici de faire impression, mais de dire très clairement devant Dieu, devant qui nous devrons rendre des comptes de quoi il s'agit. Il faut le dire clairement. Le retour du Seigneur est imminent. Il est parti nous préparer une place et il reviendra nous prendre auprès de lui avant que les catastrophes ne s'abattent sur cette terre, avant que ne vienne le jour du Seigneur qui brûlera comme une fournaise. Avant cela, le Seigneur viendra. Car il a dit, comme il était au jour de Sodome, avant que Sodome et Gomorrhe ne soient consumés par le feu, Lot a été conduit hors de la ville. Avant que le déluge ne survienne, Noé est entré dans l'arche avec les siens. Il en sera de même lors du retour du Seigneur. L'Église épouse les vrais croyants, ceux qui ont véritablement suivi Jésus, qui ont été scellés par le Saint-Esprit, les enfants de Dieu obéissant au cœur sans partage, qui ont fait confiance au Seigneur, ils seront ramenés par lui dans la gloire. Et alors, la situation sur cette terre commencera à devenir très inconfortable. Je n'aurais pas décidé qu'il en soit ainsi, mais je me garderais bien de critiquer Dieu de quelle manière que ce soit. Il a fait prédire dans sa parole et il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Notre Seigneur a dit, quand vous verrez que tout cela commence à arriver, relevez la tête car votre délivrance approche. Approche. Ce soir, je souhaite sincèrement que quelqu'un prenne vraiment la parole de Dieu à cœur. Et j'oserais ajouter une autre prière, que cette parole ne revienne pas vide, mais qu'elle accomplisse ce pourquoi elle a été envoyée. Dieu nous aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, seul engendré de lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que cette foi personnelle qui apporte le salut, cette foi en Jésus-Christ, nous soit accordée ce soir par grâce. Ainsi que la révélation et la compréhension que nous vivons actuellement dans les derniers temps. Israël est rassemblé comme Dieu l'a promis. Lisez Jérémie 31 et les différents passages de l'Ancien Testament, puis du Nouveau Testament. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera de nouveau, le ramènera à la fin des jours. Jérémie 31, 10. Et ainsi, l'Église du Seigneur est-elle aussi ramenée vers les promesses de la parole pour ce temps. Nous avons notre orientation spirituelle et cela sur la base de la parole de Dieu. Que personne ne dise « c'est un évangéliste qui a dit cela » ou « frère Franck » ou « un missionnaire », mais c'est Dieu qui nous parle à travers sa parole et sa parole ne passera point dans toute l'éternité. Heureux celui qui se laisse préparer. Je ne suis pas ici pour semer la peur, mais je vous dis la vérité. Je ne veux pas me perdre et je ne veux pas non plus qu'aucun de vous se perde, périsse. Il est impossible de décrire avec des mots ou même d'évoquer dans l'imagination ce que cela signifiera pour les hommes qui auront négligé de consacrer leur vie à Dieu et de suivre le Seigneur. Le Seigneur. Les ténèbres s'abattront. Désespoir, angoisse, reproches de toutes sortes. Et ce sera, comme je l'ai dit, une chose terrible d'être séparé de Dieu. Je termine par les paroles de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Avec les paroles du Seigneur dans Luc 21, peut-être devrais-je plutôt lire ces paroles à haute voix afin que nous les ayons mot pour mot et ne les citions pas seulement de mémoire. Luc chapitre 21. Nous avons ici les paroles pressantes de notre Seigneur qui dit, Verset 34. Luc 21, verset 34. Mais prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne s'alourdissent par les excès de table, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour ne vous surprenne à l'improviste comme un piège. Verset 35. Car il viendra sur tous les habitants de la terre. Verset 36. Veillez donc et priez pour que vous receviez la puissance d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous présenter devant le Fils de l'homme. Telles sont les paroles de notre Seigneur. Lui aussi a parlé du jour qui viendra, et il viendra. Il va bientôt s'abattre. Nous sommes la génération qui peut s'attendre à être la dernière et à vivre le retour du Seigneur. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Cela n'est d'ailleurs pas nécessaire, mais nous reconnaissons, à la lumière des signes des temps, qu'il est très proche. Le retour de Jésus-Christ et l'accomplissement des prophéties bibliques sous nos yeux. À l'époque, le Seigneur a dit dans Luc 4, « Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie devant vos yeux. » Nous pouvons sans cesse prendre cette Bible, la lire à haute voix et dire maintenant, « Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie devant nos yeux, sous nos yeux. » Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. N'ayez pas peur. Que cela devienne une porte ouverte pour les autres. Que les autres rient maintenant et que vous soyez tristes en tant que nouveaux croyants. Le jour viendra où vous serez heureux et où les autres seront saisis de pleurs et de grincements de dents. Aujourd'hui, aux yeux des autres, ceux qui croient en la Bible sont un peu méprisés. Ils ne sont pas vraiment considérés comme s'intégrant bien dans la société. J'en ai moi-même assez fait l'expérience. Mais le vent va tourner. Ceux dont on se moque aujourd'hui seront alors célébrés. Et ceux qui sont célébrés aujourd'hui seront alors traversés, devront alors traverser l'épreuve, comme je le souhaite. Et le Seigneur aussi, j'en suis sûr, que chacun de nous prenne aujourd'hui cette affaire au sérieux, se convertisse au Seigneur, croit en la parole de Dieu et emprunte ainsi le chemin droit, étroit, qui mène à la vie, dans la certitude que lorsque le Seigneur viendra, nous serons prêts à le rencontrer et à entrer avec lui dans la gloire. Que son saint nom soit loué et glorifié. Amen. Je vous demande de vous lever un instant, je voudrais encore prier. Père céleste, je te remercie de tout cœur pour ta précieuse et sainte parole. En vérité, elle est devenue une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, tu es notre lumière, notre vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous te remercions, notre Sauveur, d'être venu à nous, d'avoir souffert, d'être mort, d'avoir été enseveli et d'être ressuscité le troisième jour pour notre justification, puis d'être monté au ciel après 40 jours et de revenir pour ramener les tiens à la maison. Seigneur bien-aimé, je prie pour tous ceux qui ont levé les mains, ainsi que pour ceux qui n'ont pas encore osé le faire. Tu le sais, ô Seigneur, que personne ne veut se perdre. Sauveur, ensemble nous te prions. Sois miséricordieux envers nous. Continue de nous parler par ta parole et par ton Saint-Esprit, Seigneur. Ne laisse personne se perdre. Sauve notre âme. Libère notre esprit de tout. Et guéris-nous dans notre corps. Oui, confirme ta parole comme vraie. Que ton saint nom soit loué et glorifié dès maintenant et pour l'éternité. Seigneur Dieu qui es aux cieux, je te remercie aussi pour cela, que nous ayons ta parole comme ligne directrice, comme orientation, comme guide, comme enseignement. Seigneur, je te remercie pour la Bible, la merveilleuse parole de Dieu. Tu nous as préservé cette parole à travers toutes les tempêtes. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole demeurera pour l'éternité. Bien-aimé Sauveur, que la parole proclamée aujourd'hui demeure dans tous les cœurs. Qu'elle porte du fruit pour la vie éternelle. Accueille, ô Seigneur, tous ceux qui viennent à toi maintenant dans la foi. Écoute-les, exauce-les, pardonne toutes les fautes, efface tout leurs péchés, libère-les complètement et entièrement, ô Seigneur, de toute leur servitude, de tous leurs vices. Ôte de nous l'esprit de ce monde et donne-nous l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Ô Seigneur, je te rends grâce de tout mon cœur. Toi, Dieu Tout-Puissant, car cette soirée aussi porte du fruit pour l'éternité dans tous les cœurs qui ont accueilli ta parole avec foi. Je te les confie ainsi qu'à ta grâce et je souhaite les revoir au plus tard, le jour de ton retour. Ô Seigneur, il y a un avenir glorieux pour ton peuple dans toute éternité. Accorde-nous la vie éternelle et sois avec nous tous par ta grâce. Oui, tourne ta face vers nous et donne-nous ta paix et ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen.